Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioOkapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioOkapi.net, la radio en différé à votre service.
Plusieurs paysans pratiquent l'agriculture sans tenir compte des principes de développement durable. D'après les experts, on recommande de plus en plus aux agriculteurs de pratiquer l'agriculture durable qui ne nuit pas à l'environnement. Alors c'est quoi l'agriculture durable et comment le faire? Philippe Nzita est coordonnateur de programme Action Massive Rurale. Philippe Nzita, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors qu'est-ce qu'on entend par agriculture durable?
Merci pour la parole. On entend par agriculture durable, c'est cette agriculture-là qui permet à la fois à la population rurale d'augmenter les rendements de la production et d'améliorer leurs conditions de vie. Cette agriculture-là qui permet aussi à cette population de prendre en charge leur famille en matière nutritionnelle. Cette agriculture-là qui répond directement aussi à la gestion de l'environnement. Donc on fait de l'agriculture sans pourtant compromettre la gestion de l'environnement.
Voilà, c'est ça l'agriculture durable. Alors quels sont les préalables pour arriver à pratiquer cette agriculture, cette forme d'agriculture?
Donc pour y arriver, moi j'aimerais qu'on fasse une rétrospection parce qu'il est nécessaire que les gens le sachent. Mmh. Donc aujourd'hui, un des plus grands défis pour l'agriculture demeure sa capacité à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour une population mondiale. Cette population qui est de plus en plus croissante, de plus en plus urbanisée. Si vous regardez les projections des Nations Unies, prévoient même plus de 9 milliards, c'est pas moi, d'habitants de la population mondiale d'ici 2050. Donc il y aura une plus forte pression si la sécurité alimentaire et la nutrition viendraient beaucoup plus sur l'Afrique subsaharienne, donc où la RDC est bien concernée. C'est cette région du monde qui cumule à la fois une faible productivité agricole et une forte croissance démographique. Pour y arriver, il faut faire de l'agriculture intensive. Cette agriculture qui consiste à nourrir les sols. Donc en nourrissant les sols, vous passez à accroître le rendement des exploitations agricoles, en maximisant au même moment les facteurs de production, donc qui vous permettent de produire un peu plus, là donc la main d'œuvre, les sols et les matériels, en utilisant les intrants, les fertilisants, les traitements herbicides, les produits de santé des plantes. Ça vous permet d'optimiser les potentiels de production, ainsi offrir une nourriture abondante, saine et de qualité au meilleur prix aux populations. Donc c'est cette agriculture-là qui est promue. En tout cas, 34 ans d'expérience après, je me rends compte que cette agriculture-là doit être promue.
Oui. Alors, quelles sont les pratiques, peut-être, que dans les paysans ou les agriculteurs, que les paysans utilisent, les agriculteurs utilisent, et qui ne permettent pas de faire la promotion d'une agriculture durable?
Oui, c'est cette agriculture-là qu'on appelle l'agriculture extensive. Hein, en d'autres termes, on appelle ça l'appauvrissement du sol. Donc, vous coupez la forêt, faites de l'agriculture sur brûlis. En d'autres termes, on appelle ça comme ça. Donc, vous coupez la forêt. C'est une période, vous brûlez l'espace où vous voulez faire des cultures. Vous cultivez sans pourtant respecter les écartements entre cultures. Et puis, un an après, vous laissez cet espace-là pour prendre d'autres espaces. Donc, vous faites plus de pression. Regardez, cette famille fait la même chose. L'autre famille à côté fait la même chose. Donc, vous progressez dans la forêt comme ça, et cette agriculture-là, d'abord, n'améliore pas les conditions de vie comme telles des populations locales et autochtones. Cette agriculture-là ne permet pas aux populations d'accroître les rendements de la production, mais par contre, cette agriculture-là résout certains problèmes de la population, mais ça détruit l'environnement, ça détruit la forêt, alors qu'actuellement, on parle des questions aussi cruciales du changement climatique. Donc, voilà. Alors que la première forme d'agriculture intensive qui consiste à nourrir les sols, contribue même à la réduction des émissions, à la déforestation forestière, là, donc ça contribue à la RED, ça contribue au développement. développement des populations, à l'amélioration des conditions de vie, ça contribue à la préservation de l'environnement.
Bien, alors est-ce que vous pouvez parler aux agriculteurs clairement, s'ils veulent faire une agriculture durable pour lutter contre la faim dans le futur, les jours à venir, qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement, en commençant par la préparation du sol jusqu'à la moisson, pour promouvoir une agriculture durable?
Je vais vous rappeler que d'ici 18-19 mois prochain, il y aura un grand séminaire qui sera organisé par le WWF Belgique. Ici en RDC, c'est ce séminaire-là, c'est la gestion de la fertilité du sol. Donc, quitter la gestion traditionnelle des terres à la gestion agroécologique des sols. Donc ça sera réalisé ici à Kinshasa. Et la raison pour laquelle la FAO a déclaré cette année 2015 comme étant une année consacrée au sol. Alors, pour y arriver, il y a plusieurs niveaux pour arriver à une agriculture durable. On peut aller sensibiliser, mais si on ne donne pas du matériel nécessaire à ces populations, si on ne réfléchit pas aux plus grandes productions du pays, donc on ne peut pas y arriver. Nous, on peut aller dire à la population qu'il faut amender les sols, il faut utiliser l'écartement, mais s'il n'y a pas une politique au niveau national qui sensibilise pour encadrer les populations, c'est une longue période, ça demande des moyens, c'est une longue période. Et après, laisser des gens capables de suivre si réellement les populations sont en train de pratiquer tel qu'il est démontré. On ne pourra pas y arriver, quoi. Donc, ça demande des moyens. On peut dire tout ce qu'on pense. Hein, les techniques sont là. C'est pas moi, enrichir les sols, gérer la fertilité du sol, surveiller au quotidien, analyser les éléments de touche du sol et voir comment ça avance. Ça demande une technicité. Donc, il faut qu'il y ait des techniciens qui descendent sur le terrain. C'est comme ça que moi, je trouve la solution. Et avec un programme national qui encadre ces populations-là, là, on peut arriver à une gestion durable du sol, à un développement agricole durable pour lutter effectivement contre la faim. Sinon, on n'y arrivera pas. On peut sensibiliser à la télé ou à la radio, on descend, on sensibilise, on crie. Et pour y arriver, ça demande que les politiques au niveau national décident et s'approprient de cela.
Donc la première chose est de mettre en place un programme national pour l'agriculture écologique. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qui manque pour que ce programme soit aujourd'hui mis sur pied?
La volonté politique, hein. Je l'ai dit, hein, tout haut, c'est la volonté politique. C'est pas compliqué ça pour mettre ça en place. C'est la volonté politique. Nous avons un ministère de l'agriculture qui existe. Nous avons un ministère de l'environnement. Nous avons un ministère des affaires foncières. Ces trois ministères-là devraient s'asseoir pour réfléchir sur ces questions. Hein, au moment où le monde entier est en train de réfléchir sur des questions cruciales qui concernent le changement climatique, où tout le monde est touché, personne n'est épargné du changement climatique. C'est là la volonté politique. La population est là, mais s'il n'y a pas des formateurs qui descendent pour leur montrer comment ça devrait se passer, si on ne met pas les moyens matériels et financiers en place pour qu'il y ait un encadrement, c'est une longue période de ces populations et constater avec eux qu'effectivement ils ont changé leur méthode ancienne aux méthodes innovantes. On n'y arrivera pas, on ne parlait pas à la population. Ils ont déjà acquis leur manière de faire là, ils ne comprennent rien, quoi. Ils ne comprennent rien.
Voilà. Ah, mais vous êtes coordonnateur des programmes Action Massive Rurale. À votre niveau, au niveau de votre programme, qu'est-ce que vous faites exactement pour promouvoir cette agriculture durable?
Merci beaucoup. Je viens rappeler là que Action Massive Rurale existe depuis 1997 en RDC. Au Bas-Congo, nous avons une station agroforestière. Dans cette station-là, nous avons des champs d'expérimentation de l'agriculture durable et où nous appelons les populations que nous encadrons. Mais ça, on les fait à une échelle beaucoup plus petite. Donc, ça n'aura pas d'impact comme tel, comme on l'a dit, parce qu'on n'a pas tous les moyens nécessaires pour intensifier cela. Voilà. Donc, toutes ces techniques-là, nous apprenons cela aux populations qui sont autour de la réserve du Bessurlout, qui travaillent avec nous, qui travaillent aussi avec le WWF, notre partenaire, qui travaille aussi avec la FAO. Mais déjà, au niveau national, c'est là que les grands défis devraient être pris pour qu'on arrive à une agriculture durable. Voilà.
Bien. Donc, vous avez des champs d'expérimentation où vous recevez les agriculteurs. Qu'est-ce que vous leur apprenez, par exemple?
Ouais, on leur dit, on leur montre comment gérer les sols. On leur montre comment utiliser les composts pour gérer la fertilité du sol. Et on essaye d'encadrer ces populations-là en les suivant. Hein, faire avec eux, nous avons des techniciens locaux qui font avec eux ce travail-là et l'expérience de terrain renseigne que ça marche. Là où nous avons fait, si vous allez dans les Maïdombe où nous avons un vaste programme d'assistance là, vous remarquerez que les populations que nous encadrons, ça marche. Ça, nous l'avons fait avec l'appui des KFW, agence, c'est pas moi, la Coopération allemande de développement, financement KFW, mais via VVF, WWF. On les fait, ça essaie de marcher, mais ça demande plus de moyens. Donc, pour qu'on arrive à approprier cela aux populations locales et autochtones.
Et vous avez des moniteurs agricoles qui descendent souvent et qui encadrent les agriculteurs?
Nous avons des techniciens, des phytotechniciens qui font ce travail-là. Mais dans un programme beaucoup plus globalisant, il sera intéressant parce que les moniteurs agricoles existent jusqu'à ces jours. Ils sont au niveau des territoires, ils sont partout, mais ils sont abandonnés à leur propre sort. Quand nous, on descend sur le terrain pour travailler avec la population, on n'oublie jamais ces moniteurs agricoles. On les forme ou on les met à niveau par rapport à l'agriculture durable, par rapport aux techniques qu'ils ont vantes actuelles. Et on descend avec eux pour qu'ils montrent la population comment faire ce travail-là. Ils sont payés avec les peu de moyens que nous avons, nous payons pour qu'ils puissent bien faire ce travail-là, suivre aussi une longue période de 5 ou 6 mois. C'est d'ailleurs peu, mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas des moyens pour rester avec eux pendant un an ou deux ans.
Voilà.
Les moniteurs agricoles sont là, ils abandonnent les propres sorts. Il faut que l'État revoie toutes ces choses-là pour qu'on voie comment en arriver au résultat.
Bien, Clément Ikassi nous appelle de Bokungu, Gentil Oumanou et Takananga. Comment promouvoir une agriculture durable pour lutter contre la faim? Philippe Zita, coordonnateur de programme Action Massive Rurale et l'invité d'Okapi Service. Okapi.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Clément Ikassi, vous êtes à Bokungu. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody.
On vous écoute.
Oui, Monsieur Jody, vraiment, c'est déplorable parce que en suivant notre intervenant, c'est comme si le pays n'a pas une politique nationale sur l'agriculture. Parce que jadis, c'est là on parlait de l'agriculture, priorité de priorité. Mais sur le terrain ici, Monsieur Jody, le service ne tourne plus. Le service ne tourne plus, comme l'a dit notre invité. Et à l'époque, là, nous, lorsqu'on grandissait, il y avait des moniteurs agricoles, donc qui encadraient les paysans et ils accompagnaient les paysans dans les domaines agriculture. Alors maintenant, là, vraiment, c'est tout. Les paysans sont abandonnés à leur propre sort, on ne sait pas ce qu'ils doivent faire. Bon, comme conséquence, tout est importé. Donc, comme nous prenons par exemple, nous sommes en pleine forêt équatoriale, mais pourquoi consommer le riz de Ghana? Pourquoi consommer le riz de Pakistan? Et même les maïs, il faut les importer. Donc, ça c'est vraiment déplorable. Alors, nous demandons vraiment aux autorités de notre pays d'instaurer quand même une politique nationale dans le domaine d'agriculture et essayer un peu, qu'on essaye un peu donc de redynamiser le service de l'agriculture, c'est-à-dire au niveau des territoires. Il faut des agronomes vraiment formés et au niveau des secteurs, et ces derniers devraient vraiment encadrer les paysans comme c'était à l'époque de la troisième, de la deuxième république. C'est un peu ça, ce que nous demandons vraiment. Bon, moi, mon souhait était que l'invité soit quand même un ministre, un membre, donc un délégué du ministère de l'Agriculture pour qu'on puisse un peu lui poser des questions. Mais malheureusement, l'intervenant, lui aussi, s'est plaint que les paysans ne sont pas accompagnés. Et ça, c'est que nous déplorons, nous tous. Merci, M. Jody.
Ok, merci, Clément. Gentil Oumanou de Kananga, bonjour.
Bonjour, M. le journaliste. Bonjour aussi à l'invité du jour et aux auditeurs de la radio télé, de la radio Okapi, précisément les amoureux de notre émission Okapi Service.
Quelle est votre question, Gentil?
En tout cas, c'est une bonne sujet relevé en ce moment parce que sans l'agriculture, on ne peut pas parler aussi d'un développement d'un pays. Alors, je voulais demander à notre invité, qu'est-ce que le gouvernement national peut aussi mettre sur pied dans le sens que à chaque province de la RDC, on peut même cultiver 5, 10 hectares qui vient seulement du gouvernement national, tant que si on produit même par exemple les maïs, on sait que ces maïs ici proviennent de l'agriculture de le gouvernement national. Alors, c'est magnifique si on peut le vendre ça à un prix là fixé par le gouvernement. Parce que, par exemple, c'est 100 francs par méga. Parce que chez nous, ici, à Tana, on vit avec le méga. Par exemple, 200 francs par méga. Dans cette présence, le gouvernement, je pense que si on sans la budget, on ne peut pas aussi viser du développement d'un pays. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je voulais aussi demander à notre invité. Il a parlé d'une formation des agriculteurs. Alors, la formation là, même si nous, si ça nous intéresse aussi, si je parle aussi pour ma province qui est le Kasaï occidental de Noumoué. Alors, je voulais demander à notre invité, est-ce qu'on ne peut pas faire une bloc de personnes qui viennent de formateurs, qui viennent ici chez nous dans la province du Kasaï occidental de Noumoué, former aussi les gens qui ont les soucis de faire aussi la culture. En tout cas, c'est gentil, Loumano, attendre une nouvelle session.
Merci beaucoup, gentil Loumano. Philippe Nzita, vous avez suivi les deux intervenants. Qu'est-ce que vous avez à leur dire?
Oui, je remercie sincèrement les deux intervenants. Je crois que le premier n'a pas abordé dans un sens contraire que moi. Il a plutôt souhaité que ça puisse être quelqu'un du ministère pour qu'on lui pose des questions et qu'on ait des réponses qu'il faut, quoi. Mais je vais dire ceci. Les premiers intervenants, moi, je trouve qu'après, il est revenu à la raison, il a abordé le même sens que moi. Il n'a pas plutôt posé une question, il a renforcé ce que moi je dis pas canard, mais on peut dire qu'il y a un programme qui occupe. Mais c'est la faisabilité. Je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Qui me pardonne, hein, les gouvernements. Comment les gens réfléchissent? Quelle est l'approche qu'ils mettent en place pour l'application des textes au niveau de la base? Si vous allez dans les secteurs agricoles, c'est la même chose. Les secteurs forestiers, vous voyez des lois qui sont bien élaborées mais non appliquées. Il faut qu'on arrive à appliquer les lois. C'est ça la plus grande question. Je veux dire à notre ami intervenant, celui qui a posé la question en premier lieu, que c'est un problème d'application des textes. Les secteurs agricoles viennent de revoir, sa loi. C'est bon, mais on va voir si on va appliquer ça. C'est l'application qui pose problème. Voilà. Nous, la société civile aujourd'hui, hein, réunie autour de l'initiative Climared, réunie autour du WWF et autour de la FAO, de certains partenaires d'accompagnement qui nous appuient, nous disons non à cela. Il faut que les gens commencent à réfléchir et puis commencent à appliquer quand même ce qui est écrit. Sinon, on sera là en train de réfléchir et sans pourtant aboutir au résultat attendu. Par contre, le deuxième intervenant est... je dirais qu'il est tout à fait d'accord avec tout ce que moi j'ai dit. Il n'a pas posé une question. Il est revenu sur la question de la formation. Nous avons des techniciens. Donner une formation, c'est la chose la plus essentielle. Et Action Massive Rurale, notre chère organisation ministre, sur cette question-là. Mais il faut des moyens pour qu'on puisse arriver là où il est à Kananga et donner des formations. Il faut des moyens pour qu'on arrive là. Donc c'est ça que moi je peux dire.
Voilà. Alors, pour promouvoir une agriculture durable afin de lutter contre la faim, vous avez dit les années à venir, il y aura une crise alimentaire. Donc c'est le moment de promouvoir une agriculture durable pour faire face à la crise qui viendra. Et la première chose à faire, c'est de mettre en place un programme national. Mais il y a certaines pratiques qu'on peut éliminer aujourd'hui. Vous avez parlé par exemple de l'agriculture itinérante sur brûlis et qui a des effets néfastes sur l'environnement. Alors s'il faut mettre fin à cette pratique, on peut la remplacer par quoi, par exemple?
À l'heure actuelle, je dirais, pour mettre fin à ça, il faut aller avec des formations, j'avais déjà dit ça. Il faut aller former la population à utiliser aux techniques qui consistent à nourrir les sols, utiliser les fertilisants, les traitements herbicides, je reviens sur ça, les produits de santé des cultures, et puis arriver à, c'est pas moi, arriver à offrir aux cultures interfertiles, parce que la clé d'une agriculture durable, c'est la gestion des sols. Si on gère bien son sol, on arrive à une agriculture durable.
Mais certains disent que le fait de mettre le feu de brousse permet aussi de fertiliser la terre.
Ah mais non, cette pratique-là a démontré suffisamment que vous allez produire, c'est vous allez avoir une production, mais après, parce que quand on est arrivé là en tant que jachère, on trouve les rendements qu'on avait au départ. et ça détruit l'environnement, ça détruit les écosystèmes forestiers. Pour rien. On peut faire de l'agriculture sans pourtant faire de l'agriculture surbrillée. On fait de l'agriculture normale, avec des techniques innovantes. On arrive à une très grande production. On fait une association de cultures sur les mêmes sites, le même espace. On arrive à une très grande production, à un rendement incroyable. Il faut prendre des exemples d'autres pays, Sénégal et tout ça, là, Internet. Vous allez voir comment les gens produisent.
Ils font, par exemple, quel type d'association de culture?
Ah, mais non, je dois vous faire toute une litanie d'association des cultures. Je ne sais pas, vous répétez ça, je ne sais pas, vous avez combien de mythes encore là. Mais on sait que si on prend telle culture avec telle autre culture, ça donne un peu plus. On le sait, mais ça, c'est une litanie. Il faudrait qu'on trouve un autre espace pour en parler.
Bien, nous avons deux autres auditeurs en ligne. Dieudonné est à Kinshasa et Pierre Toumba aussi. Dieudonné, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Merci, jeudi. Je voudrais partager totalement l'analyse de l'invité, mais en même temps réitérer le souhait d'un intervenant qui a demandé que ce soit un invité qui vienne du ministère de l'Agriculture. Ce serait beaucoup plus intéressant parce que moi j'ai eu des témoignages. Le petit témoignage, c'est par rapport à mon territoire. Je suis du territoire de Doumba. Et là-bas, les gens vivent essentiellement de l'agriculture. Depuis plusieurs années aujourd'hui, on a comme l'impression que les populations de l'arrière-pays, de ces coins-là, commencent à abandonner de plus en plus l'agriculture parce que ça ne procure pas les revenus qu'il faut pour assurer leur survie, assurer l'éducation de leurs enfants, assurer leur soin de santé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de voie de communication. C'est des gens qui vivent essentiellement de l'agriculture du paddy.
Ah, je me rappelle même à un certain moment, on parlait du fameux losso à Bumba.
C'était un riz
beaucoup apprécié.
Mais il n'y a pas de route aujourd'hui. Il n'y a pas de pont. Et donc, ces gens-là, qui font de l'agriculture, qui font des champs, produisant beaucoup de paddy, beaucoup de manioc, beaucoup de maïs, ne savent pas évacuer. Les commerçants ne savent même pas arriver à ces endroits-là, parce qu'il n'y a pas de pont. Et conséquence, ils ont pratiquement abandonné l'agriculture. C'est comme ça que, par exemple, vous avez la culture, par exemple, de la production de la boisson alcoolique qu'on appelle généralement l'autogo. Vous savez pourquoi? Parce que ils ne savaient pas évacuer, ils ne savent pas vendre le paddy, ils ne savent pas vendre le manioc, ils ne savent pas vendre le maïs. Mmh. Et donc, ils ont trouvé un palliatif en fabriquant sur place de l'arak, parce qu'avec l'arak, ils vendent, ils ont un peu de quoi, du savon, du sel, un peu de ceci. C'est un problème. Donc, je réitère le souhait de l'autre ami qui a demandé que ce soit quelqu'un de l'agriculture pour qu'on lui pose des questions sur une politique, si réellement il existe ou il existerait une politique dans ce pays pour encourager ces gens-là. Vous rendez compte que dans ces coins-là, dans certains coins de mon territoire, vous allez un dimanche à l'église, on procède aux offrandes, à la fin, toute une messe, vous n'avez que 2000 francs. Parce que la population est tellement démunie. Pourquoi? Parce qu'ils font de l'agriculture, ils ne savent pas évacuer, ils ne savent pas vendre, et donc c'est incroyable. Merci.
Merci Dieudonné. Et Pierre Toumba, en Toumba de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, ami.
On vous écoute.
Oui, j'ai deux questions à poser à notre invité.
Oui.
Le premier, mon cher ami, nous avons vu le gouvernement, avec le président de la République, remettre des tracteurs ici. Des tracteurs. On les avait distribués dans toutes nos provinces. Mon cher ami, où en sommes-nous avec ces tracteurs? En écoutant notre invité, ce malheureux pour le département, de ce département-là de l'agriculture. Hein? Et je veux parler aussi de notre pépinière, mon frère. Vous voyez devant l'ISC là. Nous avons eu toute une parcelle là. Depuis l'époque belge, ça a été dans le maire du département de l'agriculture. Mmh. Et là, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait un pépinière national là. Aujourd'hui, mon cher ami, si vous voyez cette parcelle, est inondée de grandes maisons. On ne sait pas quel était le contrat, et on a donné au ministère de l'Agriculture une petite place là qui lui reste. Je ne sais pas où seront cette minière là, existera toujours. C'est grave.
Voilà.
Le deuxième point,
oui.
chers amis, après la disparition des tracteurs, quel est maintenant le programme de notre gouvernement à ce qui concerne l'agriculture? C'est malheureux, mes chers amis. Quel est le programme? En écoutant notre invité, vous voyez comment ils sont en train de souffrir pour exercer leurs fonctions. Et ensuite, dans nos villages, il y a des biens qui viennent de l'agriculture, mais qui n'ont pas l'occasion de sortir du village dans nos villes ruraux. Et
d'accord.
Comment nous allons manger ici à Kinshasa?
D'accord, merci beaucoup Pierre Toumba. Oui. La plupart des... Philippe, vous avez suivi bon nombre d'auditeurs qui sont intervenus, déplorent certaines situations à Bumba par exemple. La ville de Bumba, les agriculteurs produisent, ils ne savent pas évacuer les produits par manque de moyens, de communication. Et Pierre... les Kinshasa, revenu, c'est la distribution des tracteurs. Alors tout le monde souhaite qu'on ait quelqu'un du ministère de l'Agriculture. Donc on va tenter prochainement de trouver un délégué du ministère de l'Agriculture qui pourra venir afin de me parler de la promotion de l'agriculture durable. Alors Pierre, pardon Philippe Mandita, je reviens à vous par rapport à la fertilisation du sol. Vous avez dit qu'il y a certaines choses qu'il faut plus utiliser. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus des fertilisants naturels, alors que d'autres utilisent encore les fertilisants qui sont toxiques pour la terre et même pour la santé. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Il faut utiliser les fertilisants naturels, le compost par exemple. Mais s'il faut revenir sur nos intervenants, c'est quand même important. J'adhère complètement à leurs avis. Celui qui a parlé des routes de défaite agricole, ces difficultés, nous les avons aussi dans les mailles d'ombre parce que nous travaillons là-bas. Ils produisent, mais ils ne savent pas évacuer parce qu'ils sont tellement enclavés. Leurs terres sont fertiles, ils produisent, mais ils ne savent pas augmenter la production parce qu'ils ne voient pas, des preneurs potentiels qui passent là-bas. Par contre, le deuxième qui a parlé des tracteurs qui ont été distribués par les chefs d'État, s'il y avait un programme derrière, hein, il a parlé de la pépinière nationale, aujourd'hui transformée en de l'habitation, et c'est quoi la suite des tracteurs distribués après? Bon, comme là, il faut éviter quelqu'un du gouvernement qui va parler ça. Ces tracteurs-là, nous les voyons au niveau des chefs des territoires abîmés. Il a même les cas pour les hors-bord ou canaux rapides qui ont été distribués. Si vous allez sur le terrain, vous trouverez ça en panne, hein, devant les territoires ou au bord de la rivière. Donc j'adhère complètement à leur question. Et ça, comme ils ont souhaité, effectivement, moi je souhaite aussi qu'il y ait quelqu'un du gouvernement, plus spécifiquement du ministère de l'Agriculture, qui répond à ce genre de questions.
Mais nous avons, le gouvernement a initié le projet Bukangalonzo. On peut dire que c'est un projet qui fait quand même la promotion de l'agriculture durable et qui permet de lutter contre la faim.
Il faut comparer cette agriculture-là, de Bukangalonzo, à l'agriculture que font nos communautés. Il n'y a pas de rapport. Quelle est cette communauté-là qui va te faire un travail comme ça? Vous avez les capacités pour tirer les conclusions par rapport à ce qui vient de dire. Je ne peux pas comparer une agriculture comme ça, une agriculture qui font les communautés. Si 50 hectares, c'est 1 hectare. Voilà. Il y a un travail à faire. C'est pas mal l'initiative. Il y a un travail à faire pour promouvoir de l'agriculture durable au niveau des communautés.
Voilà. Alors, à votre niveau, vous dites que vous le faites déjà, vous donnez des formations, vous avez des champs d'expérimentation, vous apprenez aux agriculteurs de nouvelles techniques, mais cela ne suffit pas encore, donc il faut un programme national qui va prendre en charge tout cela, parce qu'il faut des moyens, il faut des outils. Bien, on a compris le message. Merci Philippe Nzita. Je rappelle que vous êtes coordonnateur des programmes Action Massive Rurale, AMAR. Merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.
Je vous remercie.